Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information est heureuse de vous accueillir ce soir pour une nouvelle rencontre du cycle Le Monde sur un fil, consacrée aux questions géopolitiques et organisée en partenariat avec la revue Politique étrangère. Ce soir, nous allons parler de l'espace post-soviétique révisité 30 ans après la chute de l'URSS. La rencontre sera animée par Christine Okrent, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté ce rôle. Je lui laisse tout de suite la parole pour introduire nos invités. Très bonne soirée à tout le monde.
Merci et bonsoir à tous. Nous avons donc une heure à peu près pour bénéficier de l'expertise de deux des meilleurs spécialistes de la Russie et du monde post-soviétique, même si cette appellation sans doute mérite quelques précisions. Et c'est à l'occasion aussi de la publication de ce très remarquable Ramsès 2022. Vous connaissez sûrement la publication annuelle de l'Institut français des relations internationales. Et dans le numéro, si j'ose dire, dans le volume de cette année, il y a un dossier que Tatiana Kastoueva-Jean a coordonné et qui est véritablement très, très complet sur le sujet, ou plutôt les sujets qui nous réunissent ce soir. Et nous allons évidemment nous interroger sur ce que devient la Russie de Vladimir Poutine avec ce raidissement du régime auquel, semble-t-il, on assiste, avec aussi l'impact du Covid. Il semblerait que la vague actuelle en Russie soit particulièrement sévère, et les conséquences de cette situation politique, économique, au moment où on voit aussi le prix du gaz s'envoler en Europe et particulièrement chez nous, de voir comment l'arme du gaz, grâce à Julien Vercueil de l'INALCO, comment les ressources de la Russie servent au pouvoir du Kremlin. Mais au-delà de la Russie, il y a Tatiana Kastoueva-Jean, vous dirigez le Centre Russie Communauté des États indépendants, c'est toujours nouveaux États indépendants. C'est justement, expliquez-nous le sens de cette appellation qui paraît toujours un peu floue à ceux qui ne sont pas aussi pointus que vous en la matière.
Il est vrai que cela peut être discutable 30 ans après la chute de l'URSS de parler encore de l'espace post-soviétique, tellement en fait les différents pays suivent aujourd'hui les trajectoires différentes et affichent des tendances différentes, que ce soit les tendances démographiques, les tendances en matière de rapport gouverneur-gouverné ou encore les tendances en matière du rapport à la religion. Et on a du mal aujourd'hui à trouver une appellation commune pour tout cet espace. Déjà, les pays baltes, ils sont pleinement membres de l'OTAN et de l'Union européenne. Donc, si on n'est plus, ces trois pays-là ne sont plus l'objet d'études de mon centre. Nous avons les pays qui ont connu des guerres sur leur territoire. Il y a eu une guerre civile au Tadjikistan, il y a eu un conflit autour du Haut-Karabakh qui a connu un très fort regain l'année dernière. Vous avez tous certainement suivi ce qui s'est passé en Crimée et à l'est de l'Ukraine en 2014. Donc c'est un espace où il y a beaucoup de tendances inquiétantes aussi, avec les conflits gelés, avec les guerres et ces conflits gelés qui ne sont pas toujours complètement gelés d'ailleurs. Donc on essaie de traiter tous ces pays aujourd'hui quasi séparément, tellement il y a peu de tendances communes, sauf si ce n'est le rapport à la Russie, qui reste quand même l'acteur central de cet espace.
Julien Vercueil, sur le plan économique, est-ce que cet espace, l'Estan, comme on les appelle parfois, est-ce que cela a un sens, selon vous, en termes d'analyse, de ressources, matières premières et rapports de force, autant avec la Russie qu'avec la Chine?
En fait, comme dans le temps de l'Union soviétique, le sens économique de cet immense espace est problématique. C'est-à-dire que du temps de l'Union soviétique, on avait une entité politique qui les maintenait ensemble, mais c'était déjà d'une certaine manière problématique. Il y avait déjà des tendances centrifuges. Aujourd'hui, ces tendances centrifuges se sont libérées depuis 30 ans. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qu'il reste de ces relations. Donc, parler d'espace post-soviétique du point de vue économique, c'est parler du point de vue d'un héritage, en disant quel est l'héritage commun que ces pays partagent. Et effectivement, plus le temps passe, plus on se rend compte que cet héritage a tendance à s'estomper. N'en déplaise aux tentatives de réintégration. C'est-à-dire que la réintégration, ça n'est pas le retour à l'état antérieur. C'est une construction qui vient se superposer à un mouvement de démantèlement de relations économiques héritées, mais qui sont de moins en moins prégnantes. On peut toujours dire, par exemple, vous parliez tout à l'heure de l'énergie, on peut toujours dire qu'il y a des infrastructures gazières, des infrastructures de circulation du pétrole, et évidemment d'autres infrastructures logistiques qui, d'une certaine manière, articulent cet espace et donc facilitent un certain nombre d'échanges économiques. Mais il s'en est construit d'autres, certaines ont été abandonnées, certaines ne sont plus rentables du point de vue des nouvelles logiques de marché qui sont imposées à travers la transformation de cet espace économique en espace ouvert à la concurrence. Et donc, on se retrouve dans un espace complètement recomposé. Et à l'intérieur, on a des pays en stand, comme vous dites, mais là, c'est l'Asie centrale, essentiellement. Sauf que c'est un petit espace, mais on a...
C'est relatif.
Un petit espace, quand on le compare, par exemple, à l'espace qui était couvert par l'Union soviétique en son temps. On a un autre espace. Donc, en fait, on est presque obligé... On peut raisonner en termes géographiques, c'est-à-dire en se disant... On a le monde russe tel qu'il est, la Russie, elle-même extrêmement diverse. On a la partie Europe orientale qui serait constituée, sans compter les Pays-Baltes qui font partie de l'Union européenne, qui serait constituée donc du Bélarus, de l'Ukraine, de la Moldavie. Puis on a un espace qui est un espace de caucasien, du Caucase du Sud. Et puis on a cet espace qui est l'espace de l'Asie centrale. Mais en fait, du point de vue économique, les choses se sont déroulées un peu différemment parce qu'on a une recomposition à l'intérieur de ces différentes zones géographiques dans la relation à la Russie, comme le disait Tatiana, qui est passée par également des logiques économiques, outre les logiques politiques qui sont aussi à l'œuvre.
Tatiana, commençons évidemment par le Kremlin, qui reste le pôle de ce monde. Cette réforme constitutionnelle, les dernières élections législatives qui ont quand même été une espèce, comment dire, de démonstration des méthodes de gouvernance du régime, et sinon une caricature, au point que on s'est demandé pourquoi faire des élections à partir du moment où les contestataires ont été éliminés, un durcissement très net et pas seulement vis-à-vis du mouvement de Navalny qui continue de bénéficier dans nos pays et dans nos médias d'une certaine présence, mais on a vu que encore une fois le Parti communiste a fait de la figuration parce qu'il fallait bien qu'il y en ait un. Comment avez-vous analysé ce moment assez caricatural ?
Je commencerai peut-être par rappeler ce que c'était cette réforme constitutionnelle qui a eu lieu l'année dernière, en été 2020. Elle a été composée d'un patchwork de plusieurs propositions législatives, mais évidemment celle qui est arrivée en dernier et qui a éclipsé tous les autres amendements proposés, c'était celle de la remise à zéro des mandats de Vladimir Poutine. Ce qui fait que Vladimir Poutine, en 2024, théoriquement, a l'option de se représenter une nouvelle fois et faire deux mandats de 6 ans, ce qui lui permettrait de rester au pouvoir jusqu'à 2036. Je dis bien une option théorique, on ne sait pas s'il va en profiter ou d'autres moyens d'assurer le transit du pouvoir, s'il y a transit, et même si c'est le transit de Poutine à Poutine, de quelle manière va se passer cette élection 2024. C'est la prochaine grande date, la prochaine grande échéance que toutes les élites russes, mais aussi la société, ont en tête. Et cette réforme constitutionnelle a été un point, en fait, de franchissement d'un nouveau palier dans le durcissement du système politique russe. Comme si il y avait la marge de manœuvre qui était désormais l'infini, et on pouvait tout faire sur la scène politique intérieure sans rencontrer d'obstacles, sans avoir de contrepoids. Et notamment, il y a eu beaucoup de lois répressives qui ont été adoptées. Les lois qui pouvaient apposer, qui peuvent désormais apposer le label d'agent de l'étranger, d'organisation indésirable à tous ceux qui critiquent le pouvoir et qui s'opposent au cours des choses que le Kremlin estime bon pour la Russie. Et les élections législatives qui ont eu lieu récemment à la mi-septembre, c'était un point important. Et en effet, les élections en Russie se déroulent en général sans surprise. On sait très bien qui est le gagnant. J'avais prédit avec une grande facilité que le parti au pouvoir, la Russie unie, allait garder la majorité constitutionnelle. Et en réalité, j'avais
très peu de chance de se tromper. C'était la participation.
Le point d'interrogation, c'était en effet la participation des personnes, et le pouvoir a joué assez habilement, je trouve, si on se met dans sa logique. D'une part, ils ont tout fait pour augmenter le taux de participation parmi ce qu'on pourrait qualifier l'électorat dépendant de l'État. L'obligation de venir, de voter, envoyer la photo de votre bulletin de vote à votre supérieur, etc. On a vu plusieurs choses comme ça. Et en même temps, de décourager ceux qui peuvent être des contestataires potentiels, notamment en empêchant aux candidats des oppositions libérales de se présenter à ces élections-là. Toutes les structures d'Alexei Navalny, dont vous avez sûrement entendu parler et qui est en prison, ont été aujourd'hui démantelées, ses proches poussés à émigrer à l'étranger ou interdits de participer, car ces organisations sont qualifiées d'organisations extrémistes, et ceux qui ont un rapport avec les organisations extrémistes ne peuvent plus se représenter pour ces élections-là. Donc évidemment, quand on ne trouve pas son candidat parmi ceux qui se présentent, on est découragé de participer.
Donc la stratégie qu'il avait commencé à mettre en place du vote utile, c'est-à-dire voter pour n'importe qui, à l'exception du candidat.
Voilà,
du parti,
le vote intelligent, ça a marché. On ne peut pas dire que c'était un franc succès. En tout cas, le bilan de l'opération, dans la Douma actuelle, le parti Russie Unie garde la majorité constitutionnelle, et c'est important. Ce sont les dernières grandes élections avant, ce que je vous disais, avant la date de 2024, avant les élections, les prochaines élections présidentielles. Donc c'est cette Douma-là, cette chambre supérieure du Parlement russe, qui sera en charge d'assurer la transition dans les conditions dont Vladimir Poutine sera le seul maître et décideur.
Que sait-on de l'état de l'opinion publique, en tout cas à Moscou et à Saint-Pétersbourg, où là, on avait vu, précisément au moment de la réforme constitutionnelle, une certaine bouderie de la part de cette classe moyenne qui, sous l'impact du Covid en plus, s'estime sans doute moins gâtée par le pouvoir qu'elle ne l'a pu l'être au cours des années précédentes.
Il faut prendre avec prudence les sondages en Russie pour parler de l'état de l'opinion. Si on vous, dans un système autoritaire, si on vous pose la question « Est-ce que vous approuvez l'activité de Vladimir Poutine en tant que président ?», je pense qu'il y a peu de gens qui auront le courage de dire « Non, je désapprouve ». En revanche, quand on regarde les questions indirectes, c'est là où il y a des choses qui ressortent. Et je trouve qu'en ce moment, le pays est extrêmement clivé, très divisé. Par exemple, il y a 49% des Russes qui estiment que le pays va dans la bonne direction, et quasiment autant, 48%, que le pays va dans le mauvais sens. La moitié des Russes fait confiance à leur gouvernement, l'autre moitié ne fait pas confiance au gouvernement.
Il y a une différence générationnelle ?
Et il y a, absolument, j'allais y venir, qu'il y a une différence entre les grandes villes et les campagnes. Donc la population, les sociétés dans les grandes villes sont plus inclins à protester. On a vu ça en 2011-2012 avec les protestations sociales après les élections parlementaires qui ont été falsifiées d'une manière un peu trop visible. Mais il y a aussi le clivage générationnel. Quand vous regardez les tendances dans les sondages, elles sont quasiment inversées dans la tranche supérieure d'âge. Et les jeunes, que ce soit le rapport à la nostalgie de l'URSS, l'approbation de l'activité d'Alexei Navalny, etc., la jeune génération se documente surtout à travers les réseaux sociaux, la télévision devient de plus en plus marginale comme source d'information, alors que pour les générations plus âgées, c'est la télévision et notamment les principales chaînes fédérales. libérale qui véhicule le discours favorable au Kremlin, qui reste la source principale.
On a vu comment la qualifier, la dose d'humour dont a été capable le porte-parole du Kremlin, M. Peskov, en saluant l'attribution du prix Nobel de la paix il y a quelques jours au directeur de Novaya Gazeta, qui a aussitôt dédié son prix aux 6 journalistes de sa rédaction qui avaient été assassinés. La manière dont ce raidissement sur le plan politique, comment se traduit-il sur le contrôle des citoyens, sachant évidemment que les réseaux sociaux sont davantage surveillés, je crois, qu'auparavant, et qu'évidemment les méthodes de reconnaissance faciale font aussi leur apparition, à Moscou en tout cas.
En effet, un point important sur l'actualité, en effet, il y a eu le prix Nobel de la paix qui a été remis à 2 journalistes, dont le journaliste russe, le rédacteur en chef de Novaya Gazeta, et qui a été curieusement aussi critiqué en Russie, notamment par les oppositions libérales, car ils ont estimé que c'était la manière de ne pas attribuer ce prix à Alexei Navalny, ce qu'on pouvait supposer. Et en ce qui concerne le contrôle, oui, il y a différents moyens de contrôle qu'on voit se renforcer ces dernières années. Pour vous donner quelques exemples très concrets, il y avait un site d'Alexei Navalny où les gens pouvaient faire des dons et manifester son soutien à Alexei Navalny quand il est revenu en Russie après la période de convalescence qui a suivi son empoisonnement. Et il y a eu à peu près 400 000 personnes qui avaient signé, qui ont donc donné leurs données personnelles à ce site-là. Et ces données ont été divulguées, ça a fuité, et on sait qu'il y a eu des visites des policiers chez ces personnes qui étaient très clairement des visites d'intimidation envers ceux qui potentiellement donc, peuvent être contestataires et qui soutenaient Alexei Navalny. En Russie, aujourd'hui, on peut aller en prison pour des posts et pour des ripostes sur les réseaux sociaux. Tout ça est extrêmement suivi. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce n'est pas des répressions de masse. On n'est pas du tout à l'époque stalinienne, etc. Ce sont des choses qui sont ciblées, mais qui, avec les réseaux sociaux, qui ont vraiment un effet amplificateur, deviennent de notoriété publique extrêmement vite et peuvent tout à fait faire peur aux autres. Et je disais, les répressions ne sont pas ciblées, et en même temps, aujourd'hui, vous avez des groupes entiers de population qui ne peuvent plus se représenter pour être élus pendant les élections. L'association Golos, les chiffres aujourd'hui à 9 millions de personnes, ne peuvent pas se présenter aujourd'hui en Russie. Tous ceux qui ont des actifs à l'étranger, tous ceux qui ont un lien,
avec les structures de Vladimir Poutine,
d'Alexei Navalny. Mais on a eu aussi, par exemple, le communiste Pavel Grudinin, qui a pu être candidat pour les élections présidentielles en mars 2018 et qui a été interdit de participer, de concourir là pour les élections parlementaires parce qu'il détient des actifs à l'étranger. Il y a aussi les personnes qui ont les doubles nationalités qui sont interdites. Et 9 millions de personnes, ça commence à faire. Ça fait plusieurs groupes dans la société qui ne peuvent plus se présenter en tant que candidat à différents niveaux des élections fédérales, locales ou régionales.
Julien Vercueil, sur le plan économique, commençons par ce contrat tacite qui avait été passé, semble-t-il, entre le régime et une classe moyenne dont le niveau de vie avait considérablement augmenté. Là-dessus, le Covid s'abat avec un temps de retard par rapport à ce qui s'est passé chez nous. Néanmoins, le Covid a obligé Vladimir Poutine à décaler son calendrier. Et on a vu à ce moment-là, me semble-t-il, donc l'été dernier, une certaine grogne, en tout cas, à Moscou et à Saint-Pétersbourg, devant la faiblesse du soutien économique prodigué par l'État russe, qui reste un État riche, enfin qui a en tout cas un trésor de guerre important. Comment est-ce que cette situation-là évolue ?
Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question, parce que la première question, c'est celle de la classe moyenne. Et la deuxième question, c'est celle de l'évolution du revenu de certaines strates de la population russe. Donc, si je commence par la deuxième question. Évidemment, le contrat avec Vladimir Poutine. Sur la première question, il y a un point qui est quand même très très important, c'est que c'est quand même une relation et une forme de compromis qui s'est nouée il y a 20 ans, en fait, et non pas il y a 3-4 ans au moment de 2018 et des promesses faites par Vladimir Poutine sur l'horizon 2024. Je pense que ça, c'est un point qui est vraiment très important, parce que ça reste dans les mémoires des gens.
Vladimir Poutine est au pouvoir depuis 30 ans.
Il reste depuis 20 ans. Depuis 20 ans.
Depuis 20 ans. Voilà. 21.
Depuis 21 ans. Donc, c'est de là que je veux repartir, en fait. C'est-à-dire du moment où, suite au traumatisme de la Grande Dépression liée à au démantèlement de l'Union soviétique et à la transition de cette économie qui, en 6 ans, a perdu 40% de son produit intérieur brut, la Russie et la population russe a vu ses revenus chuter de façon vertigineuse et ses conditions de vie et sociales se dégrader de manière absolument inédite en temps de paix. Et c'est à la suite de cette période-là que, d'une certaine manière, progressivement, pas immédiatement, mais progressivement, la popularité de Vladimir Poutine s'est aussi construite autour d'une sorte de compromis en matière de revenus et de prospérité. C'est-à-dire que l'idée, c'était de dire il y a la possibilité, si l'État est fort, de le rendre capable de surmonter les difficultés économiques de la Russie et de rendre le niveau de vie perdu de la population. Et ça a été réalisé, puisque en 2007, le niveau de vie moyen des Russes avait à peu près rejoint celui qui était le sien en 1989-90. Donc on a eu une première remontée extrêmement forte des revenus moyens des Russes, qui est restée dans les mémoires. Alors, à partir de ce moment-là, plusieurs crises se sont succédées. Et en fait, on est rentré dans une deuxième période poutinienne. La première période poutinienne, on pourrait l'appeler presque la décennie brillante. C'est-à-dire qu'entre 2000 et 2008, vous avez vraiment un changement de la situation quotidienne des Russes qui s'améliore de manière extrêmement significative. Les infrastructures s'améliorent. Elles restent dans beaucoup d'endroits dans un état difficile, mais elle s'améliore, et les conditions de vie s'améliorent, les revenus s'améliorent, la consommation augmente, et une forme de classe moyenne s'installe. Ensuite, vous avez une deuxième période, c'est pour ça que je ne veux pas remonter juste à 2018, il y a une deuxième période qui est de 2009 à peu près à aujourd'hui. Et là, on est dans une période de turbulence très forte qui secoue l'économie russe à intervalles irréguliers, mais violent. D'abord la crise de 2009, ensuite une deuxième crise qui survient en 2014-2015, et puis cette crise du Covid, qui a à nouveau secoué cette économie. Donc, si vous voulez, en 10 ans, l'économie russe a connu 3 crises fortes. Et si l'on regarde sur cette période-là l'évolution des revenus moyens de la population, on se rend compte qu'en fait, aujourd'hui, en 2021, on est retombé à un niveau moyen par habitant équivalent à celui de 2010. C'est-à-dire que le niveau de vie moyen, je dis bien moyen, hein, de la population n'a pas progressé pendant toute la période. D'où l'importance de cette promesse de 2018 de dire nous allons changer cet état des choses et nous allons faire en sorte que le quotidien des Russes change véritablement d'ici 2024. Et d'où les difficultés, puisque la promesse ne peut pas être tenue. L'ensemble des objectifs économiques qui ont été annoncés en 2018 a dû être repoussé et même aux nouvelles échéances risque d'être difficile à tenir. Puisque, par exemple, le niveau de vie moyen en Russie a chuté depuis 2018. Donc il va remonter compte tenu des perspectives de croissance qu'on a pour 2021 et 2022, mais il a chuté, il a continué de chuter. Par rapport à 2014, par exemple, il est 10% plus faible qu'en 2014. Hein. Donc une chute du niveau de vie moyen de la population de 10%, c'est quelque chose qu'en France, on n'a pas connu. Hein. Voilà. Bon, et ceci est d'autant plus remarquable que, dans le même temps, l'État s'est
considérablement développé dans son emprise sur l'économie. C'est-à-dire qu'on avait un État qui était extrêmement faible, voire même presque dissous, dans l'économie de marché, l'économie de marché entre guillemets, l'économie de prédation en fait, hein, des années 90, qui représentait, dont le budget représentait et l'activité représentait moins de 20%, vers 17-18% du produit intérieur brut. Aujourd'hui, il est à 40%. Donc, les deux décennies poutiniennes, ce sont aussi, du point de vue économique, des décennies de, d'emprise croissante de l'État sur l'économie russe. Donc on se rend compte que finalement, dans la première partie de cette période, la reprise en main des principaux canaux qui permettaient de diriger la production et de la redistribuer par l'État, s'est accompagnée d'une amélioration générale du niveau de vie des Russes, mais que dans la deuxième partie, ça n'a plus été le cas. Et donc, c'est là que viennent les interrogations sur la capacité du gouvernement à correctement protéger le niveau de vie de la Russie des aléas qui peuvent venir des marchés financiers, qui peuvent venir, comme en 2008-2009, qui peuvent venir d'une chute brutale des prix du pétrole liée à un environnement géopolitique, ça c'est 2014-2015, et puis qui peuvent venir d'une pandémie qui arrête tout, ça c'est 2019-2020.
Et comment expliquez-vous que le soutien au tissu, encore une fois, pas les énormes conglomérats qui sont à la fois sous la coupe de l'État et dans la main des proches de Vladimir Poutine, mais ce tissu de PME qui avait commencé, semble-t-il, dans les services en particulier, en tout cas dans les grandes villes, à se constituer. Et là, le Kremlin n'a pas jugé bon, en pleine pandémie, les soutenir. Pourquoi ?
Alors que les
moyens existent.
Oui, oui, il y a des programmes de soutien aux PME. Et par exemple, aujourd'hui, des programmes de soutien, c'est-à-dire des programmes qui consistent à repousser le moment où l'entreprise va déclarer sa faillite. Donc là, pour l'instant, on ne sait pas exactement combien d'entreprises privées sont dans une situation telle qu'elles devront fermer boutique au moment où les soutiens s'arrêteront. Ils sont en train de s'arrêter. Mais soutien, il y a eu quand même. Hein. Il y a eu un programme de soutien aux PME-PMI. Il y a également eu des soutiens aux revenus des ménages, cette fois-ci directement alloués à la population sur la base de critères, par exemple, d'âge avec une remontée, enfin un coup de pouce aux retraites, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est souvent fait dans la pratique sociale, des politiques sociales du gouvernement, ou alors ciblé sur des ménages qui ont des enfants en bas âge. Hein. Donc des politiques sociales au coup par coup, ponctuelles qui permettent de maintenir un niveau de revenu, même en situation un peu difficile comme celle d'aujourd'hui. On reparlera peut-être de l'inflation ensemble après. Ce qu'il faut remarquer, c'est que cette politique sociale en direction de certaines catégories les plus vulnérables, pourrait-on dire, de la population, elle a permis, alors que le niveau de vie moyen avait baissé, de ne pas provoquer, enfin, en tout cas d'empêcher une augmentation du taux de pauvreté. C'est-à-dire que la pauvreté est restée à un niveau qui est de 12,5 à 13%, hein, malgré la baisse du niveau de vie moyen de la population. Il y a eu un soutien ciblé sur les ménages, mais un soutien faible pour les entreprises, les petites et moyennes entreprises. Celles qui ont le plus souffert sont celles, un peu comme partout dans le monde, qui étaient liées au secteur de l'hôtellerie, de la restauration, hein, des services qui ont été bloqués par les confinements. Mais en revanche, vous avez dans le domaine de la logistique, par exemple, des secteurs qui ont continué à fortement se développer. Donc en fait, on a plus un éclatement des situations qu'un effondrement général lié à la Covid et aux politiques gouvernementales qui n'ont pas été complètement inactives.
L'atout maître de la Russie et du régime reste évidemment les matières premières, à commencer par le gaz. On a entendu ces derniers jours, au moment où les prix du gaz se sont emballés un peu partout, on a vu le Kremlin souligner le fait que la mise en exploitation du gazoduc Nord Stream 2, donc qui court sous la Baltique et qui a créé quelques divisions au sein même de l'Union européenne, mais que Mme Merkel a voulu poursuivre jusqu'au bout, on a vu le Kremlin déclarer à plusieurs reprises, mais regardez, c'est de de la faute des Européens qui, en fait, n'ouvrent pas suffisamment les vannes pour importer davantage de gaz russe. Avant d'en venir avec Tatiana à l'aspect géopolitique de cette affaire, Julien Vercueil, un mot de ces atouts qui restent absolument majeurs pour la puissance russe et que représentent en fait ces matières premières, mais qui sont aussi une forme de dépendance d'une économie qui n'a pas réussi à se développer au-delà, me semble-t-il, de l'exploitation proprement dite. Il y a peu d'industries de transformation.
Oui, donc sur le rôle des hydrocarbures dans la macroéconomie de la Russie, les choses sont assez simples. Les matières premières représentent la majorité des exportations et une très grande part des recettes en devises année après année. Évidemment, tout cela dépendant quand même du niveau des prix des matières premières, hein, puisque en fait c'est une rente dont le volume varie en fonction de des prix mondiaux. Donc c'est une rente que ne maîtrise pas la Russie. C'est une rente qui est déterminée à l'extérieur de la Russie par les prix mondiaux. Ceci est vrai pour le pétrole et ceci est vrai de plus en plus pour le gaz, où les prix spot, ce qu'on appelle les prix au jour le jour, ont remplacé de plus en plus, dans la détermination des recettes de Gazprom, les contrats à long terme qui étaient ultra dominants autrefois. Alors, ça c'est un premier point. Si on regarde globalement le volume de cette rente en pourcentage de la richesse produite en Russie, c'est-à-dire ce qui vient de l'extérieur du territoire russe et qui vient alimenter l'économie russe. Suivant les années, si l'on regarde sur une longue période, on a entre 10% et un tiers du produit intérieur brut qui vient de l'extérieur, et qui évidemment... en contrepartie de ressources naturelles qui quittent le territoire, bien sûr, hein, mais qui vient de l'extérieur et qui vient s'injecter dans l'économie. C'est une masse absolument phénoménale qui a des effets massifs sur une économie, quelle qu'elle soit, même si elle est grande et relativement diversifiée, comme celle de la Russie. Hein. Une partie de cette masse repart immédiatement dans les places offshore, c'est environ 2,5 à 10% du PIB qui repart pour se placer à l'étranger. Hein. Mais vous en avez quand même une certaine partie qui est recyclée à l'intérieur par le système financier. Alors, qu'est-ce que ça entraîne? Je ne vais pas rentrer dans trop de détails techniques, mais juste un point. Ça entraîne en particulier, ça a entraîné pendant longtemps, en particulier, une hausse du niveau du rouble. Parce que le rouble est davantage demandé lorsque les exportateurs viennent échanger leurs recettes en dollars contre des roubles. Et donc, étant davantage demandé, eh bien, son taux de change a tendance à augmenter. Et ceci entraîne mécaniquement une difficulté pour les industries de transformation dont vous parliez, d'être compétitive sur le marché national contre des importations ou d'être compétitive à l'étranger vis-à-vis des producteurs étrangers. Ça, c'est un phénomène assez classique que l'on retrouve dans beaucoup de pays et qui n'est pas complètement absent de la Russie. C'est ce qui explique le fait, non pas que l'économie russe ait été désindustrialisée, parce qu'en fait, elle a été désindustrialisée dans les années 90, mais qu'elle n'ait pas réussi à reconstituer un tissu industriel performant dans tous les domaines où elle aurait pu être performante. Ceci dit, je vais quand même nuancer un tout petit peu ce que je dis, il y a quand même d'autres points forts de l'économie de la Russie que les matières premières. Vous avez des secteurs qui sont exportateurs et qui génèrent des recettes d'exportation importantes, comme par exemple le nucléaire civil, comme par exemple... le secteur de l'armement, où les recettes d'exportation de l'armement sont extrêmement importantes. Comme également, depuis plusieurs années, le secteur de l'agriculture et des grandes cultures en particulier. Et puis d'autres secteurs qui sont un peu moins connus, mais qui jouent un rôle important, qui sont le secteur des télécommunications et de l'Internet et des sociétés de services informatiques. Donc vous avez quand même quelques points sur lesquels l'industrie russe est reconnue mondialement comme une industrie performante.
Tatiana, venons-en à la façon dont Vladimir Poutine, en 20 ans, 21 ans de règne, a voulu rétablir la Russie dans son statut de grande puissance. Il y est parvenu. Comment, puisqu'on en revient au titre de notre conférence, donc 30 ans après la chute de l'Union soviétique, quel est, selon vous, l'étalon par rapport auquel un Vladimir Poutine qui continue de considérer que l'écroulement de l'Union soviétique est un désastre historique, est-ce que, selon vous, son ambition d'être à jeu égal ou en tout cas à statut égal par rapport aux États-Unis et maintenant par rapport à la Chine, est-ce que il peut, selon vous, se dire satisfait?
C'est vrai que on connaît cette phrase de Vladimir Poutine que la chute de l'URSS a été la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Et il y a aujourd'hui beaucoup de Russes qui semblent partager cela et qui sont extrêmement sensibles aux questions de prestige, de rang international, etc., un peu comme à l'époque de l'URSS. Quand Vladimir Poutine arrive au pouvoir, cet objectif-là n'est pas du tout son premier objectif. Il arrive pendant la guerre en Tchétchénie, c'est plutôt l'intégration, l'intégrité territoriale du pays et remonter la pente aussi du déclin économique qui fait partie de ses priorités. Il s'y ajoute presque tout de suite l'objectif de continuer à maîtriser l'espace post-soviétique. Quand je dis à maîtriser, ça ne veut pas dire reconstituer l'URSS, continuer à jouer un rôle dans les affaires intérieures de ces États, mais avoir des gouvernements qui ne sont pas hostiles à la Russie, qui défendent aussi les intérêts russes d'avoir les relations efficaces et d'éviter que ces pays adhèrent aux alliances de plus en plus considérées comme hostiles, c'est-à-dire l'OTAN et l'Union européenne, ce sont les objectifs de Vladimir Poutine. Et l'objectif de rétablir le rang international, de rétablir la puissance, vient un peu plus tardivement, en troisième lieu, s'ajouter à ces deux premiers, avec plusieurs moyens. Et l'un des outils sur lesquels la Russie met l'accent, c'est la puissance militaire. Donc dès que la Russie, au milieu des années 2000, grâce au prix du pétrole notamment, commence à profiter de cette rente énergétique, il y a beaucoup d'argent qui est investi dans la reconstruction de l'outil militaire. Et aujourd'hui, on a vu son efficacité avec l'opération en Syrie, même s'il y a encore pas mal de limites à cette puissance. La Russie a aussi beaucoup d'atouts qui lui restent de l'époque de l'URSS et qui la mettent au niveau des puissances de premier rang, des grandes puissances. Et là, elle fait partie du Conseil de sécurité à l'ONU, où il a le droit de veto. Donc avec, au total, il y a 5 pays qui ont le droit de veto dans le Conseil de sécurité de l'ONU. Et là, un arsenal nucléaire auquel elle accorde beaucoup d'attention. Et c'est, en fait, il y a plus de 90% de l'arsenal nucléaire mondial au monde qui est partagé entre deux pays, les États-Unis et la Russie. Donc c'est vraiment le sujet par excellence où la Russie souhaite discuter d'égal à égal avec les États-Unis.
Avec des négociations qui doivent reprendre d'ailleurs.
Tout à fait, oui. C'est à la suite du sommet Poutine-Biden à Genève au mois de juillet de cette année qu'il a été décidé, et là les deux parties sont plutôt d'accord sur le sujet, il y a différentes réunions en fait, et les négociations avancent pour pouvoir préserver les traités existants en matière de contrôle et de maîtrise des armements. La Russie a aussi des atouts en matière énergétique. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'Union européenne est toujours aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, est dépendant à 35% du gaz russe, avec des variations très fortes entre les pays. La France, par exemple, je crois que c'est 14 ou 15% seulement du gaz russe, alors qu'il y a des pays,
oui,
c'est quasiment 100%.
Grâce au nucléaire, il faut le dire, alors qu'en Allemagne en particulier, la dépendance est beaucoup plus forte et ça repose le problème de l'Ukraine. L'Ukraine qui reste dans la vision poutinienne.
Tout à fait.
Des rapports de force, disons, la région la plus sinon douloureuse, mais en tout cas problématique, avec quand même, dans le Donbass, un conflit plus ou moins gelé, mais enfin qui perdure.
Tout à fait. Il y a eu en 2014, donc après l'annexion de la Crimée, aussi un conflit à l'est de l'Ukraine sur lequel nous avons toujours, entre les experts, beaucoup de débats. Qu'est-ce que c'est exactement ? D'ailleurs, la Russie est assez contradictoire elle-même. En qualifiant ce conflit de conflit civil, en même temps en s'imposant dans ce conflit comme à la fois juge et partie. Nous avons les accords de Minsk qui ne sont pas respectés, qui sont au fond dans l'impasse, et il y a les sanctions anti-occidentales, les sanctions occidentales qui ont été imposées à la Russie et qui sont liées à ces accords de Minsk. Et comme il n'y a pas d'avancée, ces sanctions ne peuvent pas être levées. Donc c'est vraiment une très grande pierre d'achoppement dans les relations Union européenne-Russie aujourd'hui.
Et on disait, il y a un sommet, je crois, demain, entre l'Union européenne et l'Ukraine.
Et l'Ukraine, tout à fait, ouais. Et donc, la Russie estime que c'est la faute de l'Ukraine si les accords de Minsk ne sont pas appliqués. Et l'Ukraine, à son tour, estime qu'appliquer ces accords à la lettre, les accords qui, selon Kiev, ont été signés en situation de faiblesse, met vraiment en péril la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, car si les accords sont appliqués, elle aura une région qui aura son mot à dire sur l'adhésion aux différentes alliances, notamment évidemment à l'OTAN et à l'Union européenne. Et l'Ukraine a inscrit depuis dans sa constitution sa volonté d'adhérer à l'OTAN et à l'Union européenne. Donc la question ukrainienne, c'est vraiment au cœur de la relation Russie-Union européenne aujourd'hui. Et ça conditionne beaucoup de sujets, notamment le sujet dont on a parlé, l'énergie et le Nord Stream 2, parce que si la Russie a souhaité promouvoir la construction de Nord Stream 2, c'est pour se débarrasser de la dépendance du transit énergétique via le territoire de l'Ukraine, qu'elle estime être un pays aujourd'hui hostile à l'égard de ses intérêts.
Mais évidemment, pour l'Ukraine, c'est au moins, je crois, 30% de ses revenus. Il y a un autre pays qui, vis-à-vis duquel la mainmise russe est de plus en plus évidente, c'est la Biélorussie, puisque le président Loukachenko n'a pas eu d'autres ressources face aux protestations qui ont suivi sa réélection que... De se rapprocher du Kremlin.
C'est un cas très intéressant parce que à la fois l'économie biélorusse est extrêmement dépendante de la Russie et notamment du prix du pétrole et du gaz, le pétrole que la Biélorussie en fait raffine pour ensuite réexporter. C'est comme ça que là, Julien, vous me corrigerez si je me trompe sur le schéma économique biélorusse. Mais en même temps, en fait, si le régime biélorusse a tenu après les protestations de l'année dernière, après les élections présidentielles falsifiées, c'est parce que les Siloviki, les structures de force, sont restées extrêmement fidèles au président Loukachenko. Et la Russie, en effet, a aidé financièrement, et en même temps moins que Loukachenko n'espérait, parce que les crédits qui ont été accordés n'étaient pas à la hauteur de ses espérances.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une révision du traité d'union qui est prévue dans
il y a
dans très
des,
peu de
des,
temps,
des cartes qui ont été signées, en fait, pour favoriser ce rapprochement. Et en même temps, c'est là où c'est intéressant et très ambigu la relation avec Loukachenko. Il est très fortement attaché à l'indépendance de son pays. Il ne se voit pas du tout comme le 86e sujet de fédération russe. Il défend cette indépendance et cette souveraineté. Donc il fait beaucoup de promesses. Et derrière, c'est pas toujours qu'il respecte ces promesses-là. Et cet état d'union aurait pu se réaliser depuis longtemps. Et c'est en effet les élites biélorusses et le président biélorusse qui ne le souhaitaient pas. Donc il n'était pas question d'avoir la monnaie unique, le gouvernement unique,
etc. Mais là, les rapports de force se sont inversés. Là, au contraire...
Oui, et en même temps, le président Loukachenko, Poutine n'a pas réussi à le faire plier. on n'est toujours pas à déclarer l'état d'union en bonne et due forme qui éventuellement pourrait permettre à Vladimir Poutine de se représenter en 2024 en tant que président de cet état unifié, ce qui était à un moment le scénario évoqué. Donc et Vladimir Poutine, ce qu'il faut aussi dire, la Russie ne s'est pas ingérée militairement, ce qu'on a pu craindre à un moment dans la situation ukrainienne pour Biélorusse, pour établir l'ordre, et là, su garder une certaine distance. Donc, Loukachenko, moi, je pense que c'est pas un interlocuteur facile pour la Russie, et que si elle pouvait, elle l'aurait changé contre quelqu'un plus malléable, plus facile, pour favoriser et accélérer cet état d'union.
Alors élargissons maintenant le prisme géographique, en tout cas, puisque évidemment l'heure tourne. Julien Vercueil, sur le plan économique, cet espace, qualifions-le d'eurasiatique, à supposer que ce soit un peu plus clair, jusqu'à quel point est-ce que la concurrence entre ces États qui disposent souvent des mêmes matières premières, il semble qu'entre deux stands, j'avoue que je ne sais plus lesquels, mais il y a une vraie rivalité avec des incidents de frontières pour empêcher les camions de l'un ou de l'autre de transporter telle ou telle matière première lucrative. Donc comment s'installe sur le plan macroéconomique l'organisation, la régulation et la concurrence?
D'accord. Donc la première des choses, c'est de faire un peu le tour des pays qui sont intéressés à une intégration économique autour de la Russie. Puisque je terminerai par le rôle de la Russie là-dedans. Hein. En Asie centrale, très tôt, le principal pays moteur de cette intégration régionale, ça a été le Kazakhstan, le plus grand des pays d'Asie centrale.
Et le plus riche.
Et le plus riche, disons aujourd'hui le plus riche, voilà. Hein. Notamment parce qu'il a su, dans les années 90 et début des années 2000, valoriser ses énormes gisements de pétrole, y compris auprès de compagnies occidentales qui ont été très fortement implantées sur le territoire du Kazakhstan. Mais le président de l'époque, M. Nazarbayev, était aussi un fervent défenseur de cette intégration économique régionale. Et conjointement avec d'ailleurs Loukachenko et la Russie, c'est constitué une sorte de noyau dur de trois pays qui ont poussé la question de l'intégration économique. Qu'est-ce que ça voulait dire l'intégration économique à ce moment-là? Ça voulait dire essayer de créer une structure qui évite un démantèlement trop rapide des liens économiques qui prévalaient dans le système soviétique. Évidemment, les faire reposer sur des mécanismes de marché, bien sûr, mais les faire reposer aussi sur des mécanismes de coopération économique dans les domaines considérés comme prioritaires. Alors, ça a été le premier noyau qui a créé ce qu'on a appelé l'Eurasec, qui a été la communauté économique eurasiatique au début des années 2000. Avec ces trois pays comme noyau, rapidement se sont greffés deux autres pays, un qui est tout petit, qui est le Kyrgyzstan, qui était à la frontière de la Chine, qui était un pays le plus faible économiquement, le plus petit, et un autre, l'Arménie, qui se trouve dans une autre région, hein, puisque c'est la région du Caucase. Et avec ces cinq pays, petit à petit, s'est constituée la volonté de progresser davantage vers ce qu'on a d'abord appelé une union douanière. Cette union douanière, c'est une zone dans laquelle les marchandises peuvent circuler avec de très faibles taux, voire aucun droit de douane interne, et puis un tarif extérieur commun qui règle les relations avec le reste du monde. Cette union douanière a été effective entre les trois membres du noyau initial, en tout cas proclamée en 2010. Ensuite, on est passé à l'étape suivante qui a été l'espace économique commun en 2012, et puis enfin l'union économique eurasiatique en 2015, avec donc ces cinq pays qui se sont agglomérés autour de cette union économique eurasiatique à partir de ce noyau. La question qui se pose, c'est les autres, que font-ils, hein? Vous avez des situations extrêmement diverses, extrêmement éclatées. Vous avez un pays comme le Turkménistan qui est un pays très isolationniste. extrêmement autoritaire et organisée sur une base très traditionnelle, avec une très forte économie administrée, qui n'entend pas avoir des relations économiques étroites avec ses anciens voisins, plus qu'il n'en faut en tout cas. Il a une rente lui-même gazière extrêmement importante. Il s'en est servi dans les années 2000 pour nouer une relation très forte avec la Chine qu'il fournit en gaz. Il essaie aujourd'hui de trouver une diversification de ses débouchés, ce qui est très difficile, mais qui est nécessaire pour lui parce que la Chine a une emprise sur le Turkménistan qui est forte. Et évidemment, la Russie peut jouer un rôle et l'Union économique eurasiatique peut jouer un rôle dans cette relation. Mais on voit bien que pour l'Union économique eurasiatique et pour la Russie en particulier, avoir des relations très fortes avec un producteur de gaz n'est pas forcément extrêmement intéressant. Hein. Voilà. Ensuite, vous avez d'autres pays comme l'Azerbaïdjan, qui est un pays du Caucase et qui lui aussi est un exportateur de pétrole. Donc il n'a pas tellement besoin non plus d'une relation économique, je parle du point de vue économique, hein, d'une relation économique très forte avec un pays comme la Russie. Donc, je peux pas faire la liste de l'ensemble des situations. Il faudrait parler de la Géorgie, il faudrait parler de la Moldavie, il faudrait parler de tous ces pays-là. Mais ce que je voudrais dire, peut-être pour terminer, c'est l'Ukraine, du point de vue économique dans tout ça. On peut se demander quel est l'intérêt, finalement, pour la Russie. On revient à l'intérêt de la Russie, de créer cet ensemble. Économiquement, l'intérêt de créer un ensemble type Union économique eurasiatique pour la Russie n'est pas très élevé. La Russie, c'est 85%, 86% du produit intérieur brut de l'ensemble. Donc, ajouter à la Russie des pays qui représentent moins de 15%, tous agglomérés de son PIB, ce n'est pas du tout comme faire une intégration économique entre la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, etc. Ce n'est pas du tout la même chose. Ça ne transforme pas l'économie de la Russie. Pas du tout. La Russie, c'est 98% des échanges économiques à l'intérieur de la zone. Donc, l'intérêt n'est pas extrêmement important. Qu'est-ce qui était derrière, de mon point de vue, et ça c'est un élément d'argumentaire que je veux rajouter à l'histoire ukrainienne. Qu'est-ce qui était important pour la Russie ? C'était de pouvoir reconstituer un ensemble avec des partenaires industriels qui auraient été significatifs. Et clairement, l'Ukraine faisait partie de ces partenaires industriels significatifs. Donc si la Russie a essayé de séduire l'Ukraine avec des propositions d'intégrer l'Union économique eurasiatique, c'est parce que l'idée était de reconstituer une puissance industrielle forte avec des partenaires significatifs qui pèsent plus que les pays qui aujourd'hui font partie de l'Union économique eurasiatique. Et c'est l'une des raisons, l'échec de ce projet, et puis les conséquences dramatiques de la crise ukrainienne qui relève d'une autre logique et pas uniquement économique, évidemment. Hein. Mais l'échec de ce projet est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, de mon point de vue, l'Union économique eurasiatique est à l'arrêt.
Tatiana, ce sera rapide, alors que c'est évidemment un enjeu majeur depuis le retrait américain et le retrait de l'OTAN de l'Afghanistan dans les conditions que l'on sait. Cet espace eurasiatique dont le Kremlin reste évidemment le pôle dominant, comment est-ce que les rapports de force de Vladimir Poutine avec Joe Biden d'un côté, avec Xi Jinping de l'autre, comment évolue-t-il selon vous ? Brièvement, hélas, parce que...
Oui, il y a beaucoup d'étages dans votre question.
Il va falloir aller vite.
Tout d'abord, le retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Il y a une sorte d'attitude duale chez les Russes que j'observe. D'une part, ils envisagent cela comme une opportunité géopolitique, en se disant désormais, l'Amérique a perdu de sa crédibilité, donc ça va renforcer nos liens avec les autres pays qui verront que les États-Unis n'est pas un partenaire fiable. Mais en même temps, il y a des craintes sécuritaires extrêmement fortes vis-à-vis de cela. Et la Russie a un historique très lourd avec l'Afghanistan, avec la guerre en Afghanistan.
Et néanmoins... Et l'obsession de la stabilité.
Et l'obsession de la stabilité, néanmoins, elle a noué depuis 2017 des relations avec les talibans et semble avoir anticipé la faiblesse du régime précédent Et sa chute rapide pour la Russie aujourd'hui, c'est l'État islamique qui reste l'ennemi principal à combattre. Et une alliance provisoire avec les talibans pour combattre l'État islamique, je pense que c'est plutôt ça aujourd'hui l'optique de la Russie. Mmh. Et en Asie centrale, les attitudes varient très fortement en fait à l'égard de cela. Il y a la position du président du Tadjikistan qui est très rigide, très dure vis-à-vis des talibans. D'ailleurs, après-demain, il sera à Paris pour discuter avec Emmanuel Macron de l'Afghanistan et de la situation.
Et il y a une base américaine importante, je crois, au Tadjikistan.
Il y a deux bases russes à Tadjikistan et Kyrgyzstan. Et il y a une discussion, semble-t-il, c'est pas tellement étalé sur la place publique, sur une possibilité d'utilisation par les Américains de ces deux bases russes. Donc on ne sait pas trop pour l'instant quelle est la réaction russe vis-à-vis de cela. Et donc en Asie centrale, les réactions sont très fortes. Ça varie de la position dure du Tadjikistan jusqu'à une ouverture pour les négociations avec les talibans en Ouzbékistan. Donc tout ça, ce sont les sujets vraiment d'actualité extrêmement passionnants. Et donc, comme je disais, ça fait partie des discussions avec les États-Unis. D'une manière générale, il y a des discussions, donc on avait déjà mentionné le contrôle, la maîtrise des armements, le cyber avec les Américains et la lutte antiterroriste. Voilà les trois sujets sur lesquels il y a quand même des discussions qui continuent et des positions qui peuvent être compatibles à la différence d'autres sujets comme l'Ukraine, par exemple, ou encore les droits de l'homme, le sujet dont les Russes ne souhaitent plus discuter du tout, en fait, avec les Occidentaux. La Russie voit aujourd'hui, elle a toujours appelé depuis, pas l'arrivée de Poutine, mais l'arrivée de Boris Yeltsin au pouvoir, au monde multipolaire dans lequel, sans domination américaine, on tiendrait mieux compte des positions de différents pays. Et dans ce monde multipolaire, le pôle montant, le pôle ascendant qui est extrêmement fort, c'est la Chine. Et le rapprochement avec la Chine ne date pas de la confrontation avec l'Occident, de l'annexion de la Crimée de 2014, c'est bien antérieur. C'est même Gorbatchev qui avait initié la normalisation à la grande frontière russo-chinoise qui est parmi les plus pacifiées aujourd'hui.
Ce contrat gazier sur lequel...
Tout à fait, voilà. Mais mai 2014, c'est vraiment l'occasion pour la Russie de marquer encore plus fortement ce qu'on appelle le tournant vers l'Est et le rapprochement avec la Chine, y compris en matière énergétique. Il y a une complémentarité tout à fait naturelle et la Chine aujourd'hui est le premier partenaire commercial de la Russie. Collectivement, ça reste l'Union européenne dont la part a baissé de 50% à 42% à peu près dans le commerce extérieur russe, mais la Chine a progressé. La Chine, elle toute seule, aujourd'hui, c'est 20% du commerce extérieur russe, avec le même problème de structure qu'avec l'Union européenne, c'est-à-dire que la Russie vend essentiellement la grosse majorité de ses exportations, ce sont les matières premières, le pétrole et le gaz.
Alors reste, vraiment en deux minutes, la même question que je vous pose à l'un et à l'autre, Vladimir Poutine et nous. On sait qu'il y a évidemment de plus en plus et de tous côtés la désinformation, les attaques cyber, plusieurs preuves manifestes d'ingérence russe, que ce soit en Allemagne ou que ce soit même en France, et nous sommes déjà en pleine campagne présidentielle. Comment, selon vous, les relations entre nous autres Européens de l'Ouest et la puissance russe, comment ces relations peuvent-elles évoluer à court terme? Julien, d'un mot, parce qu'il est déjà 20 heures.
D'un mot, c'est impossible.
Je sais.
Je dirais simplement que plutôt que de se poser la question de la relation entre Vladimir Poutine et nous, c'est nous et les Russes. Je pense que c'est aussi cette façon-là qui peut être intéressante de traiter la question, c'est-à-dire quelle relation renouée entre les entreprises françaises et les entreprises russes, y compris au niveau des PME. On n'a pas trop parlé des PME, mais c'est un sujet qui est un sujet de transformation de l'économie russe.
Enfin, il y a des relations étroites entre Total et...
Voilà, c'est pour ça que je n'en parle pas.
Oui.
C'est-à-dire que c'est comment trouver de nouveaux canaux de relations qui seraient transformants en Russie. Et je pense que c'est plutôt cette question-là qu'il faut qu'on se pose à toutes les échelles, à l'échelle de la coopération inter-administration, à l'échelle de la coopération des entreprises, mais également, pourquoi pas, à l'échelle du dialogue dans des superstructures. On pourrait imaginer que l'Union européenne s'ouvre un petit peu au dialogue avec l'Union économique eurasiatique pour jouer le rôle de la...
Encore faudrait-il qu'elle soit considérée avec un peu plus de respect que celui qui a valu à Josep Borrell, le haut représentant. On se souvient de cet épisode douloureux pour lui d'abord, mais pour les institutions et l'Union européenne. Tatiana ?
Beaucoup de choses à dire, évidemment, pour résumer. Il y a tous ces canaux cyber, garde d'information, etc. Mais je pense que surtout derrière cela, la Russie cherche à promouvoir aujourd'hui un autre modèle, un modèle en quelque sorte alternatif au modèle occidental. Elle rejette la domination occidentale. C'est très clair dans le discours russe que l'Occident, ce n'est qu'une petite partie du monde qui n'a pas à dicter sa volonté aux autres. Et donc, j'anticipe facilement le renforcement de différentes alliances de la Russie avec d'autres pays que l'Occident. En même temps, je disais, les liens économiques, énergétiques restent très forts. L'Union européenne reste le premier marché pour les hydrocarbures russes, donc c'est très important. Et le Nord Stream 2, ce sera encore un fil, encore une corde qui va lier les deux parties ensemble. Et la Russie se ferme aussi en même temps de plus en plus par rapport à l'influence occidentale avec les différentes lois qui rendent les contacts entre les sociétés difficiles, qui concernent aujourd'hui aussi les domaines de l'éducation et de la recherche. On connaît, on les subit même ces contraintes-là à notre niveau. Elle estime que c'est extrêmement difficile de discuter avec l'Occident dans l'ensemble ou avec l'Union européenne dans lequel les pays baltes ou la Pologne ont des positions qui doivent être prises en compte. Et elle préfère discuter au niveau bilatéral, d'où l'humiliation de Josep Borrell. Mais en même temps, la Russie, elle est prête à continuer à discuter, notamment avec la France, via de multiples canaux dans l'esprit de Brégançon, différents groupes de travail ont été créés. On discute aussi du cyber, de la maîtrise des armements, etc. Le dialogue n'est absolument pas rompu, mais il est extrêmement difficile sur les sujets politiques, stratégiques, les droits de l'homme, l'état de la démocratie, etc.
Alors, il nous reste quelques minutes. Si parmi vous qui êtes dans la salle, vous avez des questions à poser à nos deux amis, vous êtes les bienvenus. Des questions brèves, si possible.
Oui, des questions brèves. Je voulais savoir sur qu'est-ce qu'il en est du Parti communiste en Russie avec Poutine, puis avec la population. Est-ce qu'il est significatif ou maintenant ça n'a plus vraiment un rôle ou je sais pas. Enfin, qu'est-ce qu'il en est, quoi.
Tatiana.
Il y a beaucoup de choses à dire sur le Parti communiste. D'une part, il faut distinguer deux choses. D'une part, les Russes sont assez nostalgiques de la période de l'URSS et qu'ils voient comme notamment l'époque Brejnev comme le modèle de justice sociale, d'égalité, etc. Il y a aujourd'hui 66% des Russes qui regrettent la chute de l'URSS. Et en même temps, cet amour, cette nostalgie pour l'URSS ne se reporte pas forcément sur le Parti communiste, qui est peut-être en Russie le plus grand parti, le mieux structuré, avec des antennes régionales, etc., et qui, par force des choses, parce que les oppositions libérales ne sont plus du tout dans le jeu, elles sont quasiment détruites, s'est retrouvé lors des dernières élections parlementaires l'opposant numéro un par force des choses. Je pense même que Gennady Zyuganov, qui est le leader depuis plusieurs années, voire décennies, du Parti communiste russe aujourd'hui, en était quelque peu effrayé lui-même d'avoir réuni autant de voix. Finalement, c'est le Parti communiste a attiré des voix contestataires. Mais ce n'est plus un parti en fait qui partage exactement le même corpus de valeurs que pendant l'époque soviétique. Ne serait-ce qu'un exemple, l'attitude à la religion. Aujourd'hui, vous avez des communistes qui s'affichent avec les croix, qui sont croyants, etc. Ce qui semble quand même assez contradictoire quand on pense à ce dogme que moi j'ai pu vivre en direct ayant passé ma jeunesse et mon enfance à l'URSS, que la religion, c'est le pion des des peuples. Et j'ai discuté avec un expert qui
étudie le Parti communiste. Non, mais l'opium a fait beaucoup de progrès, hélas.
Donc j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait aujourd'hui, le Parti communiste russe, c'est pas du tout un parti idéologique, c'est un parti des personnes actives qui veulent faire de la politique, et ça reste l'un des canaux légitimes dans l'espace public via lequel on peut faire de la politique. Donc c'est un parti des actifs, des carriéristes, des gens qui sont plutôt à gauche pour les convictions économiques, qui sont pour la protection de l'État, pour plus d'aide sociale, etc. Mais ça a peu de choses à voir avec l'idéologie communiste comme on a pu la connaître, au marxiste, au léniniste, voilà, comme c'était à l'époque de l'URSS.
Oui. Bonsoir, messieurs, dames. Je ne sais pas si vous avez abordé le sujet, parce que malheureusement, arrive avec beaucoup de retard, mais quel est comment Poutine et son entourage espèrent contenir longtemps le déséquilibre démographique entre la Chine et la Russie, d'autant plus face au désert, disons, démographique de la Sibérie.
Julien.
Oui, alors, il n'y a pas forcément un déséquilibre de dynamique démographique, mais il y a un déséquilibre de masse démographique, ça c'est certain. En fait, il y a longtemps eu une grande peur en Russie d'une véritable invasion de ces marges orientales par les populations chinoises. Et cette peur était nourrie jusqu'au début des années 2000 par un très grand écart entre le revenu moyen des régions en Russie et le revenu moyen chinois. Avec l'idée que plus le gradient de revenus par habitant est élevé, plus la propension à émigrer est forte. Et de fait, il y avait entre 500 000 et 1 million de Chinois qui travaillaient en Russie dans divers secteurs, soit les secteurs du commerce, soit les secteurs l'exploitation forestière, soit les secteurs agricoles, etc., sur tout le pourtour orientale de la Russie à la frontière avec la Chine, depuis, donc, on pourrait dire, Irkoutsk jusqu'à Vladivostok. Et en fait, ça ne s'est pas concrétisé, et on peut même dire que ça s'est presque inversé. Alors, pas complètement, hein, pas inversé, mais disons que la relation s'est d'une certaine manière inversée. C'est-à-dire que pendant que ces régions cessé de se développer à grande vitesse. Elles ont, comme je l'ai dit, elles ont prospéré au début des années 2000, puis jusqu'en 2009 à peu près. Et ensuite, le développement économique s'est à peu près arrêté. Il s'est stabilisé. Eh bien, la Chine continuait sa marche en avant. Et donc, aujourd'hui, le revenu moyen par habitant s'est très considérablement rapproché. Il est très, très proche en Chine de celui qu'il est en Russie. Donc, l'intérêt purement économique de migrer est devenu beaucoup plus faible. Et en revanche, l'activité économique du côté sud de la frontière avec la Chine est beaucoup plus dynamique, pendant que l'extrême-orient russe continue de se dépeupler. Alors, quelles sont les politiques qui ont été mises en place? Des politiques assez classiques de subvention à l'installation dans ces régions de l'extrême-orient russe, avec un certain nombre d'incitations individuelles pour les personnes de s'installer, de développer leur activité économique localement. Est-ce que ça a eu beaucoup d'effet? Non. Les statistiques montrent que pour l'instant, on continue d'observer une migration interne de l'Est vers les régions qui sont à l'ouest de l'Oural, en Russie.
Et pour encourager la natalité en Russie, alors, puisqu'on voit effectivement une démographie qui s'effondre.
Alors ça, c'est pas lié à la Chine, hein, mais effectivement, il y a eu aussi des politiques à partir de 2005-2006 qui se sont mises en place pour augmenter la natalité. Elles ont eu un effet temporaire, et aujourd'hui, on a à l'échelle, cette fois-ci, de l'ensemble de la Russie, à nouveau une réduction de la population qui est liée au différentiel entre la mortalité et la natalité, qui aujourd'hui est redevenu très fortement négatif, quelque chose comme moins 800 000, hein, je crois, cette année. Oui. Moins 800 000, on a eu une augmentation de la mortalité à cause du Covid, et puis une baisse de la natalité, et on se retrouve avec un nombre de naissances qui est le plus faible depuis une bonne décennie en Russie. Alors, est-ce que ce vide-là a été comblé par une immigration chinoise? Non. Hein. En revanche, la Chine est intéressée par l'exploitation des ressources naturelles, agricoles, etc. de la Russie. Et donc, il y a une activité économique qui peut être générée transfrontalière pour l'exploitation de ces ressources. Mais ça n'a pas entraîné un remplacement de population russe par une population chinoise.
La Chine qui est aussi en déclin démographique et à tel point que le régime maintenant encourage un troisième enfant, mais ça coûte très cher. Une autre question, peut-être la dernière.
Oui, je voulais me poser une question. Vous avez dit que l'Union eurasiatique, économique et eurasiatique est à l'arrêt. Mais il me semble, d'après le Monde récent du mois de juin, 2019, l'Ouzbékistan veut adhérer très prochainement à l'Union eurasiatique. Et il me semble que de nos jours, la Russie mise de plus en plus vers l'Asie centrale. Partagez-vous mon opinion ?
Alors effectivement, l'Ouzbékistan est membre observateur de l'Union économique eurasiatique. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a une distance de la coupe aux lèvres, c'est-à-dire entre ce qui est annoncé et les résultats concrets que l'on observe sur le plan économique, il y a une grande différence. Par exemple, on parle d'union économique, mais une union économique, ça signifie, normalement, une harmonisation des politiques économiques. Et pour l'instant, cette harmonisation des politiques économiques, elle commence un petit peu à se faire avec la convergence des normes avec le Bélarus, mais ce n'est pas du tout quelque chose qui est véritablement enclenché au sein des cinq pays. Donc, il y a des élargissements potentiels. L'ouverture de l'Ouzbékistan donne une fenêtre d'opportunité pour éventuellement intégrer l'Union économique eurasiatique comme pour développer d'autres liens avec d'autres régions du monde. Et ça me paraît tout à fait normal, mais c'est lié à une volonté de l'Ouzbékistan de s'ouvrir et de modifier son régime économique. Est-ce que pour autant c'est quelque chose qui va entraîner une nouvelle dynamique qui transformera à long terme l'Union économique eurasiatique et qui fera en sorte que cette union économique eurasiatique aura des effets positifs très tangibles pour l'ensemble de ces pays, peut-être à l'échelle de certains pays qui en sont membres et qui sont des économies relativement modestes par rapport à la taille globale de l'ensemble, sans doute. Mais pour ce qui est de la Russie, ce n'est pas transformant. Voilà.
Bien, ben je crois que le moment est venu d'applaudir nos deux experts, de vous remercier. Et de remercier le Centre Pompidou pour son hospitalité.
Merci beaucoup. Merci Christine Ockrent. Merci Tatiana Jean. Merci Julien Verkeil. Merci à notre régie audiovisuelle qui a enregistré cette rencontre et diffusé en direct. Et merci à vous tous d'être venus. Je vous donne rendez-vous le 22 novembre prochain pour une autre rencontre autour des enjeux géopolitiques des questions environnementales. Très bonne soirée à tous.